Et je pense qu'il y avait un enjeu d'amener plus les gens dehors, tous les professionnels, les élus, tous ceux qui travaillent sur la ville et qui vont à un moment intervenir sur l'aménagement quoi, de la ville.
Qu'est-ce que ça apporte d'aller dehors à un urbaniste ou à des décideurs ?
Et ben d'avoir moins de certitudes, justement, et de se rendre compte que quand je faisais les études d'urbanisme, on avait l'impression qu'un jour on expliquait à des étudiants étrangers ce qu'on faisait comme étude. Et comme on parlait en anglais, on ne parlait pas hyper bien, mais en expliquant ce qu'on faisait et le métier qu'on allait faire, on aurait dit qu'on était Dieu, quoi. On faisait tout, la stratégie commerciale, l'aménagement, les transports. On était vraiment les urbanistes, les tout-puissants, quoi. Ceux qui font, qui réparent. Des villes malades et qui vont les soigner comme si on faisait tout quoi. Et justement la démarche des sentiers métropolitains, moi en tant qu'urbaniste, ça m'a appris plutôt à apprendre à observer et laisser faire, et ma théorie maintenant de l'aménagement, du vrai rôle des urbanistes, c'est qu'il faut qu'ils fassent presque le moins de travail possible et qu'ils laissent faire la ville spontanée, parce que c'est là qu'il y a les meilleures choses qui apparaissent quoi. Et c'est quand on fait des autoroutes et des aménagements et qu'on déborde d'idées géniales sur l'aménagement qu'on fait les pires conneries, parce qu'il y a toujours des répercussions plus loin qu'on n'avait pas anticipées. Donc ça m'a appris peut-être l'humilité de l'aménageur, quoi.
Humilité, ça vient de sol, humus. Donc, ouais, il marche.
Oui, je connais très bien sentiment. Et à un moment donné, je me suis dit, il ne faut pas trouver des solutions pour les problèmes, mais ça arrive comme ça veut pas nécessairement dire qu'il faut jamais faire des projets, mais plutôt peut-être de la façon que ça m'arrive des fois quand je connais un terrain vraiment bien par cœur, quand je suis marché dans un terrain, qui me viennent souvent dans la nuit ou très tôt le matin en me réveillant, des idées que j'aurais envie de faire, pas pour saluer quelque chose, mais parce que j'ai envie de le faire, ou j'aurais envie de le faire s'il y avait des moyens. Je pense que ce que je veux dire, c'est que la perte de la perspective des dieux, si tu veux, ne veut pas nécessairement dire qu'il n'a plus de projets à faire, mais ces projets deviennent d'une autre volonté que soluer des problèmes.
Ça me rend militant pour la parole publique dans l'espace public, et je suis vraiment content de faire des balades maintenant à Toulon là-bas, et de fidéliser un public et d'habituer des gens à faire circuler la parole, et qu'on a le droit de parler, et on a le droit de dire, de parler d'un immeuble dans un quartier, et qu'un habitant peut répondre, et que tout ça fait du bien à tout le monde, et ça fait de l'oxygène, ça fait une ville vivante quoi, et ça enlève la chape de plomb, et ça je pense c'est important dans une société on va dire libre, tu vois, d'avoir cette habitude de parler et sans avoir peur de dire des conneries quoi. Le sentier métropolitain, c'est aussi retrouver les distances réelles des choses, et par exemple marcher, faire le trajet qu'on fait tous les jours en transport express et le faire une fois à pied pour se rendre compte, ça permet de voir que c'est l'express, c'est un peu une violence quoi, par rapport au territoire, et quand on fait pas 15 km comme ça, c'est pas anodin quoi, derrière il y a une triche énergétique, et donc ça, c'est bien important de s'en rendre compte, parce que je sais pas, le Grand Paris Express à Paris, je sais pas si c'est ça la solution, parce que on va encore créer des effets qu'on n'anticipe pas en mettant un express sur le plateau de Saclay, et en fait les gens vont habiter encore plus loin, et je sais pas, il y a une espèce de, faut revenir un peu aux bases, je pense, cesser de tricher, en tout cas ça reviendrait à aller contre l'express en fait, et plutôt la ville spontanée partout, mixte, et puis laisser vivre la ville comme ça quoi.
Quand on a regardé la carte du Vaucluse sur laquelle on a travaillé au 19e siècle, on a eu une émotion parce que les villes en rouge étaient tenues dans leurs remparts magnifiquement, rien ne débordait, autour il y avait des couronnes de champs et tout était irrigué, et c'était le plan d'un territoire en pleine santé d'après ce qu'on pouvait imaginer de la carte. Est-ce que tu as l'idée que les villes vont revenir dans leurs limites au 22e siècle, on va retrouver ce plan-là ou...
On imaginait... moi, je pense qu'il y a plein de quartiers qui peuvent pas... Enfin, je sais pas, je délire sur l'avenir, mais il n'y a plus de pétrole. Il y a plein de secteurs urbanisés loin des villes qui sont des endroits habités par des commuteurs qui vont pas pouvoir tenir. Et donc, peut-être qu'ils vont devoir devenir des fermes pour les animaux à la porte des villes pour l'agriculture, quoi. Donc, peut-être des changements de destination pour des bâtiments qui sont aujourd'hui des résidences ou... et qui vont devoir revenir à, enfin, retrouver un sens par rapport à leur situation géographique qui est plus à la campagne, quoi. Et effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, on a tendance à grossir le trait de ce qu'on appelle le périurbain, ce serait quasiment tout. Et en fait, peut-être ce truc-là va petit à petit s'affiner pour disparaître et pour arriver à une limite plus claire, parce qu'elle est plus facile aussi pour adapter nos modes de vie, ville. Il y a la ville et puis il y a le rustique et puis il y a l'urbain, quoi.